Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bienvenue à nos auditeurs et auditrices qui sont fidèles à l'émission La Prophétie depuis plus de 10 ans, comme vous avez pu l'entendre par le président Simane Tir, qui rappelle cette chère liberté d'expression qui est si chère à nous. On la défendra jusqu'au bout, et on remercie Pastel FM et son président de nous ouvrir les ondes depuis plus de 10 ans, de 20h à 22h pour l'émission La Prophétie, et pour la communauté musulmane et non musulmane, pour avoir des informations, la connaissance de de notre religion. Donc Ahmed Mikhtar vient de nous rejoindre. Enfin, depuis tout à l'heure, on était là. Assalamu alaikum Ahmed.
Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Donc, on va continuer aujourd'hui de parler de comment se préserver de nous-mêmes, et surtout connaître le licite et l'illicite. Donc, Inch'Allah, tu vas développer cela. On rappelle qu'il est 20h28 et que, on va ouvrir l'antenne comme à l'accoutumée dès 21h. Inch'Allah, au 03 20 73 59 00, 03 20 73 59 00.
Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salli wa sallim ala sayyidi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم اللهم افتح علينا فتوح العارفين واجعلنا من عبادك الصالحين آمين. Chers frères et sœurs, auditeurs et auditrices, chers amis, nous continuons notre programme de préserve et de construction de notre personnalité et de notre société à travers le fait de suivre ce proverbe qui a connu le temps et l'espace à travers l'histoire de l'humanité, ce proverbe qui dit Al-wiqayatu khayrun mina al-ilaj. Donc la préserve et la protection est meilleure que le remède. Et donc il faut qu'on se préserve, qu'on se protège avant même de connaître et de vivre les maux et les difficultés, pour que par la suite on cherche à les résoudre et à guérir les maladies. L'islam nous prévient à l'avance et nous dit la prévention, elle est avant la guérison ou le remède. Quoique le prophète ﷺ nous a dit لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٍ إِلَّا الْمَوْتِ. Chaque maladie a un remède sauf la mort. Donc tant que nous sommes vivants, chaque difficulté, chaque maladie, chaque préjudice qui risque de nous toucher, l'islam nous a toujours trouvé issue favorable et nous a facilité la tâche de la vie. Allah, exalté soit-il loué, nous dit dans le Saint-Coran, après qu'il a parlé du jeûne du mois du Ramadan, il nous a montré que les musulmans, en jeûnant, vont vivre des difficultés, parfois, selon les contextes dans lesquels ils vivent, selon leurs états moraux et physiques. Et il nous dit subhanahu wa ta'ala وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةُ طَعَامٌ مِسْكِينَ. Tout d'abord, ceux qui ne peuvent pas le supporter, c'est-à-dire le jeûne, ils ne jeûnent pas mais ils nourrissent un pauvre pour chaque journée. Et puis par la suite, il nous dit subhanahu wa ta'ala, toujours dans la même sourate, sourate al-Baqara, entre le verset 183 et 186, il nous dit subhanahu wa ta'ala وَعَلَى المرضى أو من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. Celui qui est malade ou celui qui a entrepris un voyage ne jeûne pas mais récupère ses jours plus tard dès qu'il a la possibilité de le faire. Après qu'il nous a montré cette facilité, il nous a mis en place un verset qui nous parle d'une référence importante concernant les difficultés qui peuvent nous toucher et les préjudices en cas où nous sommes touchés par préjudice. Il dit subhanahu wa ta'ala yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra. Allah veut pour vous la facilité, non pas la difficulté. D'où le fait que les savants de l'islam nous ont appris que à chaque fois qu'il y a difficulté, elle est accompagnée par la facilité. C'est Allah qui le dit, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Deux fois il le dit de suite, à côté de chaque difficulté, il y a la facilité. Souvent les gens traduisent ce verset en disant après chaque difficulté, il y a la facilité, mais en réalité le verset dit inna ma'a, il ne dit pas inna ba'da. Ba'da c'est après, il dit inna ma'a, c'est-à-dire avec. Chaque difficulté, elle est accompagnée par la facilité. Quelle facilité? À travers ce que Allah a prescrit et son messager a enseigné. Le prophète a.s.w. nous a donné lui-même par son vivant des exemples. Par exemple, jour où il était malade, a.s.w., il a dirigé la prière, et en dirigeant la prière, il l'a faite assis. Et en faisant la prière assis, il a demandé à tous les musulmans de s'asseoir derrière lui. Donc l'imam, par cette règle, s'il fait la prière assis, tous les fidèles derrière lui prient assis. Parce que il y a un hadith dans lequel il dit « Innama ju'ila al-imam liyu'tamma bihi » L'imam n'est que référence et guide pour les fidèles derrière lui. Donc puisqu'il est la référence et le guide, s'il s'assoit, tout le monde doit s'asseoir comme lui. Cet état-là, cette situation nous montre aussi une autre chose importante, c'est que l'imam ne doit pas être privilégié. Il doit être considéré comme tout le monde, même s'il est imam. Et il n'est imam que par le choix de tout le monde. Donc il ne peut pas être imposé sur les gens. D'où le fait que le prophète A.S.A.W. a interdit à un imam d'être imposé sur des gens qui ne veulent pas qu'il guide la prière. Et il a dit que sa prière ne serait pas acceptée, leur prière à eux, elle serait acceptée, et ils risquent d'être maudits par Dieu. Diriger les gens, ou diriger des gens durant la prière, c'est la même chose que les diriger durant la vie tout entière. Et donc, s'imposer et forcer les gens à nous accepter, ceci est interdit, c'est un préjudice, c'est une difficulté qu'on risque de faire vivre aux gens. Et l'islam est là pour nous éloigner de toute difficulté comme celle-ci. Il nous en parle en nous parlant de licite et d'illicite. Donc il est licite de prier assis quand l'imam est malade, et il est licite que les gens derrière lui prient et assis comme lui, ils suivent l'imam dans tous ses états. Comme il est illicite de ne pas suivre l'imam, c'est-à-dire si l'imam il prie assis, on reste debout, nous, on prie debout. Ceci est illicite. Pourquoi? Parce que c'est un signe d'orgueil concernant l'imam. L'imam s'assoit, se repose, et les gens autour de lui ou derrière lui sont debout. Le prophète A.S.A.W., c'est un hadith qui a été rapporté par les compagnons jusqu'à l'arrivée de l'imam Qatad, l'un des grands savant de tabi'in concernant l'exégèse du Coran, quand il a été appelé par le commandeur des croyants, qui s'appelait à l'époque Harun al-Rashid, qui n'a rien à voir avec Harun al-Rashid que nous avons lu dans certains livres d'orientalistes, qui nous parlent des mille et une nuits, des choses inventées qui n'ont rien à voir avec cet homme pieux qui est Harun al-Rashid. Harun al-Rashid donc appelle Qatada, et Qatada, quand il rentre chez lui dans le palais, donc il arrive, pour arriver chez le commandeur des croyants, il est assis sur son trône, et il faut traverser le palais et tout un couloir et ainsi de suite, et la pièce, la salle de réception avec un tapis par terre. Alors l'imam Qatada enlève ses chaussures et marche pieds nus sur le tapis, et puis il s'approche, tous les ministres et des savants autour du commandeur des croyants sont debout. Et le commandeur des croyants est assis sur son trône. Ils attendent l'arrivée de ce grand savant. Et ce grand savant, au lieu de s'asseoir comme tout le monde, il s'est assis à côté du commandeur des croyants, sur sa droite, comme lui. Et il était étonné. Et puis il lui dit « Salam alaykoum ou Harun ». Il ne dit pas « Salam alaykoum, commandeur des croyants ». Alors Harun s'est mis en colère et lui dit « Comment ça se fait? Tu nous traites de cette manière. Premièrement, tu as réduit notre tapis et tu as marché dessus avec au pied nu, alors que les gens marchent en portant leurs chaussures. Et comment ça se fait que tu t'assois à côté de moi alors que les ministres et les savants ont leur place et ils sont debout en attendant ton arrivée? Et comment ça se fait que tu me salues par mon prénom et non pas par mon statut? Alors Qatada lui répond, et d'où ce hadith qu'on voudrait vous citer. Qatada lui dit, cinq fois par jour, je rends visite à mon Seigneur dans la salle de prière et j'enlève mes chaussures. Est-ce que ton palais serait meilleur que la salle de prière qui est la mosquée, demeure de mon Seigneur? Il dit non. Il lui dit, à chaque fois je m'adresse à mon Seigneur en faisant des invocations, je l'appelle par son nom, Allah. est-ce que tu serais meilleur que mon Seigneur et tu veux que je t'appelle par autre chose que ton prénom? Il lui dit non. Il lui dit aussi, je me suis assis à côté de toi, c'est pour t'apprendre une chose, c'est que un tel m'a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Donc lui, il fait partie de la chaîne de transmission de ce hadith. Voulez-vous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit, voulez-vous que je vous montre, que je vous indique un homme parmi les gens de l'enfer? Ils ont dit oui à Rasulallah, pour l'éviter. Ils ont dit oui à Rasulallah. Il leur dit, ça serait un homme assis, les gens autour de lui debout. Et là, Harun al-Rashid a eu crainte. Et il a, à partir de ce jour-là, dit à tous ses ministres et de s'asseoir et non pas de rester debout. Voilà, et donc tout ça pour nous éloigner et pour nous préserver, pour nous protéger de ces maux, de ces difficultés. L'islam, à côté de chaque difficulté, il nous met une facilité et une protection contre l'illicite. Car l'illicite est une difficulté. Comment et pourquoi? Parce que toute difficulté vécue par le croyant, et nous on ne parle que de croyants dans notre émission, toute difficulté vécue par le croyant, le Coran nous dit qu'elle n'est vécue que pour deux choses. Ou bien Allah subhanahu wa ta'ala, il l'éprouve, le petit là, il l'éprouve pour bien sûr le tester et savoir quel degré de foi il a, pour qu'il puisse lui se rendre compte de son degré de foi, l'améliorer, le renforcer et le rendre plus élevé. Ça c'est un point important. Ou bien parce que cet homme ou cette femme croyant ou croyante ont commis des péchés, ont touché à l'illicite. Et à chaque fois qu'un croyant touche à l'illicite, une difficulté lui arrive. Certainement, soyons sûrs et certains de ce fait. Donc ou bien la difficulté et le problème qui nous touche, c'est une épreuve de la part d'Allah, parce que nous sommes de bons croyants, le prophète lui-même qui est la meilleure créature d'Allah a eu des difficultés et il n'a jamais péché, d'accord? Nous on prend les choses positivement. Ou bien aussi il faut se rendre compte de ce que nous avons fait, il faut qu'on se pose des questions et qu'on se fasse notre propre autocritique chaque jour pour savoir quand il nous arrive un malheur ou un problème, pourquoi ça nous est arrivé. Et réfléchir entre nous et notre propre personne, se poser la question à notre nefs en disant, pourquoi je vis cette difficulté, ce problème? Pourquoi les portes sont bloquées? Pourquoi je n'arrive pas à réussir dans mes examens, à apprendre? Je n'arrive pas à avancer dans mes projets? Je n'arrive pas à trouver du boulot? Je n'arrive pas à me marier? Toutes ces « je n'arrive pas » qui arrivent à tout le monde et que les gens se posent cette question, souvent on trouve que par faiblesse, on se la joue, comme on dit, à l'autruche. Par faiblesse, on va mettre sur le dos de Shaitan, du démon, tous nos problèmes. On va mettre sur le dos d'autrui le mauvais œil, l'envie, d'accord, la sorcellerie, le djinn et tout ça c'est faux. Il faut ne pas se cacher et il ne faut pas cacher la réalité, il faut se rendre compte de ce que nous faisons. Et s'il nous arrive que même le démon nous touche, il nous pousse à commettre quelque chose par lequel on risque de vivre un préjudice et une difficulté, si le démon a pouvoir sur nous, c'est parce que nous sommes affaiblis. Et on ne peut être affaiblis, nous, en tant que croyants, que si on transgresse les lois divines. Les limites de l'illicite et de l'illicite. C'est là où on s'affaiblit et le shaitan prend le dessus sur nous. Ça ne veut pas dire que tout le monde vit cela. D'accord? Mais il ne faut pas, on a dit, ne pas chercher à se rendre compte de ce que nous sommes. Oui. Ne pas faire notre propre autocritique.
Et vous? Bien se connaître, se remettre en question. Voilà. Et faire le point régulièrement sur sa personne.
Et certainement penser positivement, dire que c'est une épreuve venant de Dieu, je l'accepte, mais il faut que je m'en sorte.
Bien sûr.
Ça ne veut pas dire accepter, rester, à ne rien faire. Il faut que je m'en sorte. Et pour m'en sortir, il faut que je retourne vers Allah. D'accord. Et retourner vers Allah, la première chose, c'est essayer de se rendre compte des maux que nous avons commis. Il se peut que nous, on a touché quelqu'un par un préjudice. Et aussi notre propre personne, et en commettant des péchés, en touchant à l'illicite. Alors à ce moment-là, il faut se repentir, il faut se ressaisir. et continuer la vie avec un nouvel élan, meilleur que ce qu'on a été, auparavant. Et donc, là, Allah subhanahu wa ta'ala nous a montré dans le Saint-Coran certainement que à côté de chaque difficulté, il y a la facilité. Et la facilité, elle est auprès d'Allah. Yuridullahu bikum yusr. C'est Allah qui veut pour vous la facilité. Aussi, Allah nous a dit dans le Coran, surat al-Hajj, le pèlerinage à la fin, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Il ne vous a prescrit dans la religion aucune gêne. Donc la religion est là pour nous éloigner de toute gêne. Et donc, si on compare les gens ne sont pas tous semblables. Leurs états spirituels, temporels, corporels ou intellectuels ne sont pas les mêmes. Les gens se valent et les formations ne sont pas les mêmes. Les éducations ne sont pas les mêmes. Le parcours de la vie n'est pas le même. Et donc, Allah traite chaque individu selon ce qu'il est. Et accepte de lui selon ses possibilités. Il y a des gens qui peuvent faire peu, mais le faire d'une manière sincère, et pour eux c'est un grand effort. Leur récompense serait grandiose et leur protection serait parfaite. Il y en a d'autres qui ont la possibilité de faire beaucoup, ils ne le font pas parce qu'ils font pas l'effort, ils font peu, ils ont la possibilité de faire plus, mieux, et cela bien sûr leur récompense sera équivaut à l'action elle-même. Et puis la protection, pareil, ils ne seront pas protégés assez comme le sont les autres. Donc Allah Azza wa Jalla nous protège, Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve, Allah a mis des limites pour nous protéger, et ces limites, ce sont les limites du licite et de l'illicite. Voilà notre introduction d'aujourd'hui à ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit le licite est clair, l'illicite est clair, et entre deux, il y a des choses ambiguës. Pas clair, sans flou. Peu de gens les connaissent. Ce peu de gens, ce sont les savants, comme nous disent nos maîtres. La ya'lamuhunna kathirun minan nas. Peu de gens les connaissent. Peu de gens distinguent des choses équivoques, des choses qui ne sont pas claires, des choses claires. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quiconque parmi vous s'éloigne de ce qui est flou, ce qui n'est pas clair, ce qui est équivoque, celui-là bien sûr préserve sa dignité et préserve sa religion. Par contre, tout individu parmi vous qui touche à l'équivoque, il touche à l'haram, à l'illicite. On le verra, c'est quoi ce licite, c'est illicite. Touche à l'illicite. Et il nous donne une parabole, une image. Il nous dit comme le berger qui prend ses brebis, qui prend les brebis et qui les ramène à manger, à se nourrir autour d'une limite qu'a mis en place un roi. Un roi, il a mis une limite de ses terres, de ses terres. Nul ne peut rentrer dans ses terres. Ce berger est venu avec ses brebis et les a mis à se nourrir à côté des limites du roi. Qu'est-ce qui peut arriver? Le risque, c'est que l'une des brebis dépasse les limites et rentre dans la terre du roi, et il risque quoi? Il risque la punition, le berger. Et donc et il nous dit le prophète, il nous dit sachez que tout roi a mis des limites concernant ses terres, son pays, ce qui lui appartient. Sachez que les limites mise par Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont les limites de l'illicite, à ne pas toucher. Et il termine par une règle importante qui doit générer notre vie. Sachez, il nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que dans le corps, il y a un noyau. Si ce noyau est bon, tout le corps est bon. Si le noyau est mauvais, tout le corps est mauvais. Sachez que ce noyau est le cœur. Et on verra aussi ce que c'est que le cœur, inshallah.
Inshallah, barakallahu fik. Donc, petite pause, en tant que Farid, inshallah, nous cale quelque chose. Je sais qu'il est occupé, hein, il est au téléphone, donc ce qui n'est pas évident. Donc, on viendra, inshallah, sur le licite et l'illicite, et en ce qui concerne surtout l'équivoque, on viendra, inshallah, sur ce. De retour sur Pastel FM. 20h54, donc on est bien à l'émission La Prophétie. Donc j'avais deux dédicaces à faire, je vais les faire vite fait, c'est vrai que je devais les faire à 20h. Une première pour une personne qui écoute régulièrement l'émission, elle s'appelle Somiya. Donc je le fais, je la remercie de nous écouter très 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 régulièrement. Et une deuxième personne que j'ai été visiter tout à l'heure, qui est en plein travaux dans sa maison sur Tourcoing, donc c'est Sharif. Allah y'aoun, bon courage à toi et sois patient, Inch'Allah. Donc, il y a eu des questions hors antenne, mais on va continuer, Inch'Allah, sur la thématique qu'on a pu aborder tout à l'heure, donc à partir de 20h30. Et on posera les questions que je dois déposer hors antenne. On rappelle quand même le numéro du standard, c'est 03 73 59 00. Donc, on vous invite vivement, pour l'interactivité, de prendre l'antenne, de parler en direct et de poser vos questions. Donc on revient sur comment se préserver de soi à travers l'illicite et le licite, et tu parlais juste avant de ce qui était équivoque.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Bien sûr, le hadith, c'est un hadith qui se trouve dans les authenticités de Bukhari ou Muslim, et qui nous trace les règles fondamentales concernant comment connaître le licite et comment connaître l'illicite, comment distinguer l'un de l'autre, et comment pouvoir, bien sûr aussi, connaître les choses parfois qui sont pour nous équivoques. Et on ne connaît pas, on ne sait pas quelle est la règle à suivre. Avant de parler de ça, on va essayer de voir comment le fait d'utiliser des moments où nous étions à la limite de l'illicite, et que Allah, par sa miséricorde et sa permission, nous a sauvés de cet illicite par le licite. D'accord ? Comment ce fait peut protéger le musulman dans sa vie ? Comment ? Parce que c'est ça notre sujet. C'est comment se protéger, se préserver. Le prophète A.S. nous raconte une histoire qui se trouve dans les authenticités, et que l'imam al-Mundiri a cité dans son livre At-Targhib wa At-Tarhib, dans lequel c'est un livre de sauvegarde, il parle de la sauvegarde, et il nous en parle dans le premier chapitre qui parle de la sincérité. Le prophète nous cite l'histoire de trois individus, trois hommes. Il nous dit, parmi les gens qui vous ont précédé, faisant partie des enfants d'Israël. Ils sont sortis, c'est des croyants, ils sont sortis en voyage, tous les trois, et dans leur chemin, ils étaient fatigués, ils voulaient se reposer, ils sont rentrés dans une grotte pour se reposer, et d'un seul coup, l'épreuve est arrivée. L'épreuve de la part de notre Seigneur est arrivée, un grand rocher tombe de la montagne, il chute et il ferme la bouche de la grotte. Et les trois hommes poussent le rocher, ils n'arrivaient pas à le pousser. Et donc ils risquent de mourir étouffés, l'oxygène va manquer par la suite, et en même temps, ils risquent de mourir de faim et de soif. Alors, ils ont discuté entre eux, ils ont dit, nul ne peut vous sauver de ce préjudice si ce n'est Allah, si ce n'est votre Seigneur. Et là, c'est une leçon très importante, mon frère, ma sœur qui m'écoute, c'est qu'à chaque fois que tu es face à une montagne de difficultés, sache que Allah est encore plus grand que ces montagnes de difficultés, puisque au quotidien, tu dis Allahu Akbar. Et le terme Akbar, c'est-à-dire il est le plus grand. Qu'est-ce que ça veut dire le plus grand? À chaque fois qu'il y a face à toi quelque chose de grand, Allah est au-dessus de cette chose. Il est plus grand que cette chose. Il est capable de l'anéantir, de la faire disparaître. Ou bien, si c'est une bonne chose, grande, il est capable de la fructifier et de la rendre plus importante et plus ample. Bref, ces trois personnes nous ont donné cette leçon, c'est qu'il faut toujours retourner vers Allah et chercher refuge auprès de lui. Le verset nous le dit dans Sourate al-Fatiha, « Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ». C'est toi que nous adorons uniquement, et c'est auprès de toi uniquement que nous cherchons refuge. Donc, adore Allah et cherche refuge auprès d'Allah en l'adorant. C'est ce que veut nous dire le verset, et c'est ce que cette histoire va nous raconter. Ces trois hommes vont nous parler de trois situations différentes, dans lesquelles ils étaient à la limite de l'illicite. Mais grâce à Dieu, subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde, et grâce, bien sûr, à la foi de ces gens-là, ils ont pu être sauvés de toucher à l'illicite. Parce que toucher à l'illicite, c'est quelque chose de grave. Et Allah, dans le Coran, nous parle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui s'adresse à nous et qui nous dit « Fafirru ila Allah, inni lakum minhu nadhirun mubin » Fuyez vers Allah, car je suis pour vous, de sa part, un avertisseur par preuve évidente. Et donc, fuir vers Allah, subhanahu wa ta'ala. Fuir de quoi, nous disent les savants? Fuir de l'illicite vers le licite. Fuir de shaitan vers Rahman, tout miséricordieux. Fuir des situations équivoques vers ce qui est clair. Hein, et ainsi de suite. Fuir de tout ce qui est mauvais vers ce qui est bon. D'où le fait que l'hijra, c'est une fuite, le fait de migrer. C'est une fuite. Fuir le mal vers le bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a posé la question, quelle est la meilleure hijra? Le hadith est dans le Sahih Bukhari. Quelle est la meilleure hijra, la meilleure migration? Il a dit, c'est le fait de quitter le haram vers le halal. Quitter le licite, l'illicite vers le licite. Quitter ce que Allah a interdit vers et par ce que Allah a autorisé et a rendu licite. Donc ces trois hommes, le premier, ils vont dire comment on va faire pour ça, implorer Allah. Par nos invocations, ils ont dit non, c'est pas suffisant. Il faut implorer Allah en utilisant les situations dans lesquelles on a failli toucher à l'illicite, et par notre effort venant d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons été sauvés de cet illicite. D'accord? Alors, encore une deuxième leçon pour nous préserver et nous prévenir, c'est quoi? C'est qu'on a le droit, même je vais dire qu'on a le privilège. En invoquant Allah, quand on est face à une grande difficulté, mon frère, ma sœur, il se peut qu'il y ait parmi nous des gens qui nous écoutent aujourd'hui, qui sont dans de grandes difficultés, qui sont dépassés, que peut-être ils ont commis des excès, et qu'aujourd'hui, ils savent plus où ils sont, et comment s'en sortir. Alors, sache, mon frère, ma sœur, sache, mon frère, ma sœur qui m'écoute, que, il nous est autorisé, et nous avons un privilège, c'est quoi? C'est d'utiliser la meilleure action que nous avons commis en implorant Allah et en lui disant, oh Seigneur, grâce à cette meilleure action que j'ai commis dans ma vie, sauve-moi de cette difficulté, de ce problème dans lequel je me suis mis par moi-même et par mes erreurs et par mes limites. Et donc là, on a ce privilège. Et subhanallah, yani, ça nous est arrivé parfois dans plusieurs cours de rappeler cela et de montrer que les savants de l'islam, souvent ils utilisaient deux registres, le registre de ce qu'ils ont commis comme bonnes actions et le registre de ce qu'ils ont commis comme mauvaises actions. Et souvent, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils imploraient Allah en utilisant les bonnes actions pour qu'il leur pardonne les mauvaises actions. D'accord? Et on disait aux gens, ça m'est arrivé dans des assemblées, pas toujours, ça m'est arrivé deux ou trois fois depuis, de dire aux gens d'écouter ce verset coranique. Écoutez-le en méditant. D'accord? Et en se rappelant de toutes mauvaises actions que vous avez commises. Et surtout des plus horribles actions que vous avez commises. Et puis par la suite, écoutez ce verset, un autre verset, en vous rappelant de la meilleure des actions que vous avez commises, et à ce moment-là, invoquez Allah en utilisant cette meilleure action pour qu'il vous pardonne la mauvaise action. Allah subhanahu wa ta'ala dit « قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الله عز وجل dans la sourate les rangs, Az-Zumar nous dit, ô mes fidèles qui ont commis des excès en dépit de leur propre personne, ne désespérez jamais de la miséricorde de votre Seigneur et sachez qu'Allah pardonne tous les péchés sans exception, car c'est lui le grand pardonneur, le tout miséricordieux. Et donc là, ces trois personnes vont utiliser ce privilège qui est demander à Allah de les sauver en utilisant leur meilleure action qu'ils ont commis. Et leur meilleure action, c'est quand ils étaient à la limite du péché, du grand péché surtout, ils ont été sauvés par leur conscience, par leur nefs, l'ouam, celle qui blâme, et par, bien sûr, la miséricorde de leur Seigneur, subhanahu wa ta'ala, et en utilisant le licite, le halal. Le premier dit au Seigneur, j'avais une jeune femme dans ma vie que je connaissais et qui était une cousine à moi. Elle était très belle et je l'aimais beaucoup. C'était la personne la plus aimée. Cette jeune femme, une fois je l'ai invitée et je l'ai appelée à commettre la fornication avec elle, elle a refusé. Et elle m'a rejeté depuis. Et un jour, alors que tu as décrété qu'il y ait la famine, cette personne, cette cousine, elle était pauvre. Et à cause de la famine, à cause du problème qu'il y avait, elle n'avait plus de quoi manger. Elle est venue me demandant l'aide. Je lui ai promis de lui donner de l'argent et de la nourriture, mais en échange, elle devait me permettre de commettre la fornication avec elle. Et quand cette femme, elle a réfléchi, elle s'est trouvée dans la difficulté, elle ne pouvait pas faire autrement, elle m'a permis cela. Il s'adresse à Allah. Et il se rappelle à lui-même en lui disant, Seigneur, regarde cette situation dans laquelle. C'est vraiment la limite de l'haram. Et le grand péché, le pire des péchés, c'est la fornication. Alors, le prophète me décrit la situation, il a dit au Seigneur, jusqu'à ce que je me suis mis entre ses jambes, ça y est, il va commencer. Elle s'est adressée à moi, elle m'a dit, ne touche pas à ma virginité, par Allah, crains-le, que si tu passes par le mariage. Et là, il a dit, je me suis rejeté vers l'arrière au Seigneur, j'ai regretté ce que j'ai entrepris et je lui ai donné tout l'argent qu'elle voulait et la nourriture qu'elle voulait, alors qu'elle était au Seigneur la femme la plus aimée par mon cœur. Et j'étais prêt à le faire, j'avais toutes les facilités, je ne l'ai pas fait par crainte pour toi, ô Seigneur, aide-nous, sauve-nous de ce problème. Le rocher a bougé, mais il a bougé d'une manière à ce qu'il ne pouvait pas sortir encore. Au moins ils avaient là l'air qui rentrait. Alors après il y a le deuxième qui s'adresse à Allah et lui dit, ô Seigneur, moi aussi il m'est arrivé une fois, sachant que j'avais l'habitude. Et j'avais mes deux parents vivants, mais très vieux. J'étais marié, j'avais des enfants, je travaillais. Je rentrais chaque soir, après l'asr, et je ne mangeais, ni je ne permettais à ma famille de manger, qu'après avoir nourri mes parents. Regardez la leçon, ici. C'est pour ça que le professeur Salem, quand lui a posé la question, qu'en est-il des biens de l'enfant par rapport à ses parents, le professeur Salem a dit, l'enfant et ses biens appartiennent à ses parents. L'enfant et ses biens appartiennent à ses parents. Écoutez-le bien, mes frères et sœurs, et apprenez-le par cœur. Et donc, l'imam Nawawi nous disait, alayhi rahmatullah, dans l'explication de Sahih Muslim, de ce hadith, il nous disait que l'enfant ne doit se nourrir qu'après avoir su que ses parents sont bien nourris. Il ne doit se vêtir par un nouvel habit que s'il a acheter pour ses parents un nouvel habit. Il ne doit avoir une demeure, une belle demeure, que si ses parents habitent dans une belle demeure. Il ne doit acheter de bijoux pour sa femme que si sa mère, elle a eu la même chose, sauf si elle refuse, qu'elle ne le veut pas. Et ainsi de suite. Et l'enfant, il vit avec cet esprit de penser à ses parents avant tout. Car Allah en a décrété ainsi, subhanahu wa ta'ala. Et donc, là, il lui dit, Ya Rabbi, au Seigneur, je ne me nourrissais et je ne permettais à ma famille de se nourrir le soir que si mes parents sont nourris. Alors je suis rentré un soir, il se rappelle cette affaire, je me suis rentré un soir et j'ai préparé le laban, le lait et la nourriture pour mes parents. Je suis arrivé vers leur lit et je les ai trouvés en train de dormir. Ils sont endormis par fatigue. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ô Seigneur, je te prends comme témoin et tes anges, comme quoi je me suis resté debout toute la nuit. Il est resté debout toute la nuit, portant le plat. attendant que mes parents ou l'un d'eux se réveillent pour que je le nourrisse. Jusqu'au matin, le soleil s'est levé, mes enfants se sont réveillés, ils tournaient autour de moi et criaient « Nourris-nous, nourris-nous, on a faim !» Et j'ai attendu que mes parents se réveillent, je les ai nourris. Après, je me suis nourri moi et ma famille. Ô Seigneur, si j'ai fait cela par amour pour toi et par obéissance à tes préceptes, sauve-nous. Et là, le rocher encore, il bouge, mais pas suffisamment pour sortir. Le troisième, c'est un homme qui a engagé des hommes à travailler dans son champ, et après qu'ils ont fini leur journée, ça y est, ils ont fini le travail, ils devaient leur donner leur salaire, les payer. Il a donné à tout le monde son salaire, sauf un, il est parti sans prendre son salaire. Il a dit au Seigneur, cet homme qui est parti sans prendre son salaire, j'ai gardé son salaire. Et puis après, je l'ai utilisé pour lui. J'ai acheté, j'ai vendu des brebis. Les troupeaux se sont agrandis. J'ai vendu, j'ai acheté des terrains. J'ai engagé des salariés. Et tout ça par le salaire que j'ai gardé pour lui. Un jour, il était de passage. Il est venu me voir, il a frappé à la porte, il m'a dit, donne-moi mon salaire, mon dû. Et je lui ai dit, regarde, tous les terrains que tu vois, les terres, ils t'appartiennent. Il lui dit, mais tu me prends pour un malade. Il lui dit, non, je me suis investi, j'ai investi ton argent. Il lui dit, regarde, toutes ces brebis, elles t'appartiennent. Il lui dit, mais non, mais c'est pas vrai. Il lui dit, si. Et tous ceux qui travaillent ici, ils travaillent pour toi. Tiens, prends ce qui t'est dû. Ça t'appartient. Il les a pris, il est parti très content. Ô Seigneur, si j'ai fait cela, sincèrement, pour toi, sauve-nous. Et Allah les a sauvés de ce préjudice. Tout ça, c'est une leçon que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne pour nous dire que, avant l'arrivée de sa prophétie, alayhi wa sallam, avant qu'il ne soit prophète, il y avait des gens croyants avant nous qui nous ont laissé des leçons. C'est des gens qui ont suivi les prophètes et messagers avant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et cette leçon-là, c'est le fait d'être à la limite de al-haram, de l'illicite. Regardez bien celui qui était à la limite du péché de la fornication, celui qui était à la limite du péché d'être mauvais vis-à-vis de ses parents, et celui qui était à la limite du fait de ne pas donner à la personne son salaire. Tous ces trois-là, ils ont utilisé leurs bonnes actions pour être sauvés et protégés de tout préjudice.
Barakallahu fik, Ahmed. Il y avait des questions, donc on va les poser maintenant et après on fera une pause. Donc il y a une question qui est quand même délicate. Donc c'est une fille, on va dire, qui est de culture musulmane, pas pratiquante au départ. C'est une fille qui est amoureuse d'un garçon et qui est sortie avec, comme on dit aujourd'hui, et qui par deux fois est tombée enceinte et qui par deux fois a avorté. Aujourd'hui elle pratique et elle n'arrive pas à trouver le pardon par rapport à ce qu'elle a fait. Elle n'arrive pas à se remettre de cela, et tous les jours elle pleure en étant sûre que ses actes ou son acte ne sera jamais pardonné par Dieu. Donc voilà la situation. C'est pas elle qui nous apporte cette situation, mais une amie à elle. Peut-être qu'elle nous écoute aujourd'hui. Voilà.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Si la personne elle nous écoute ou son amie nous écoute, elle lui transmet que le péché qu'elle a commis par deux fois, cette sœur qui est notre sœur, elle prend ces deux péchés et tous les péchés qu'elle a commis, elle les met dans un côté de la balance. Et elle prend la miséricorde et le pardon auquel elle croit d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle le met dans l'autre côté de la balance. Et elle nous dit, elle, clairement, c'est quoi le plus lourd pour elle, le plus important pour elle, c'est quoi qui vaut plus cher pour elle. Est-ce le péché lui-même qui est grand, ou le pardon et le pardon et la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla? Certainement, elle va nous dire que c'est le pardon et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout à l'heure, nous avons dit que nous disons constamment Allahu Akbar. dans nos prières. À chaque fois qu'on fait un mouvement, on dit Allahu Akbar. C'est-à-dire qu'Allah est plus grand que toute chose, à nos yeux grande. Cette sœur, pour elle, ses deux péchés, certainement, ils sont énormes. Et c'est la vérité. Ce sont des péchés ignobles. D'accord ? C'est un meurtre. Si elle a avorté après 42 jours de grossesse, c'est un meurtre. Sauf, bien sûr, on a déjà cité cela, on avait dit que les savants de l'islam autorisent l'avortement par prescription médicale. Certainement. Nous ne sommes pas comme certains de nos concitoyens religieux, dont notamment les chrétiens, qui n'autorisent pas l'avortement. Nous, l'islam autorise l'avortement, bien sûr dans des cas précis, mais avec prescription médicale, certainement. Donc, ce péché, ce qui s'est répété deux fois, cette sœur, maintenant, elle regrette. Et la première condition du repentir, elle s'y trouve, elle, qui est le regret. Aussi, la deuxième condition du repentir, c'est qu'elle a arrêté de commettre ce péché. Et nous, on l'invite vivement à ne plus avoir de fréquentation avec cette personne qui, bien sûr, ne lui donne pas sa vraie valeur. Puisque la personne, elle passe le temps avec elle, et on sait très bien que des moments comme cela, ils passent vite. Et puis par la suite, c'est elle qui prend la responsabilité de ce qui est dans son ventre, hein, la grossesse. Et donc cette sœur, il faut qu'elle arrête, après regret, de fréquenter cet homme, si ce n'est dans le halal, c'est-à-dire par le biais du mariage. Et puis bien sûr, elle demande à Allah de lui pardonner. Et on va citer, inshallah, quelques hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous montrant le pardon en islam, inshallah.
Barakallahu fik, on a une personne en direct. On va l'écouter. Allô?
Allô?
Allô, salam alaikum.
Voilà, j'ai dit Rahalik, cher.
Saddalak.
Parce que là, j'ai dit musulman à Zouja Taï. Maintenant, il y a un parce qu'il y a un ami ou un talak. Ou ma âme, j'ai dit que vous devez être talak. Ou Khalil Mataï, bach, Nordi, on taï. Est-ce que Jouz Lia, bach. Voilà, j'ai un problème avec ma femme.
Ouais, Anna, si j'ai compris, voilà. C'est que tu as un problème avec ta femme.
Parce que
Que c'est ta mère qui t'a demandé.
C'est pas qu'elle m'a demandé, parce que c'est ma femme, elle veut pas que je voie ma mère.
D'accord.
Et elle ne veut pas que je l'aide. Et ma mère, elle a besoin de moi financièrement, dans tous les sens. Parce qu'on est dans un pays étranger, il n'y a que moi qui est là. Et ça me pose des soucis parce que j'ai un enfant avec cette femme et j'ai peur d'abandonner cette femme et ma fille pour ma mère.
Mais votre mère, elle ne vous a pas demandé de divorcer, elle.
Mais
elle ne vous a pas imposé de divorcer avec.
Non, elle m'a pas imposé, mais tellement que j'ai une pression, des fois j'ai pensé au divorce pour.
Non, il faut pas penser au divorce, oui. Non, du tout. L'affaire, c'est que cette femme, elle a un problème. Votre épouse, elle est votre épouse. Ouais. Elle a un problème avec votre mère. On ne sait pas c'est quoi ce problème. Il n'y a que vous qui saviez et qui savez ce problème-là. Et ce n'est pas la peine de l'étaler et de le dire sur antenne. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est que vous n'êtes pas obligé de dire à votre femme ce que vous devez vis-à-vis de votre mère. Ça, c'est votre affaire personnelle. D'accord ? L'aide que vous devez porter à votre mère, ce n'est pas une aide. Vous vous trompez et moi je me trompe et tout le monde se trompe s'il dit que c'est une aide.
Non, c'est un
devoir.
C'est une obligation que je fais. C'est un devoir.
Voilà.
Je sais.
Alors, ce devoir-là, il passe avant tout autre devoir, yani, et après le devoir vis-à-vis d'Allah Azza wa Jalla, l'adoration.
D'accord.
Alors à ce moment-là, continuez à aider votre mère et ne rendez de compte à personne. C'est-à-dire, ce n'est pas la peine d'en parler à votre épouse. Si votre épouse, elle vous dit, n'aide pas ta mère, tu lui dis, d'accord, Inch'Allah. Et c'est tout.
Non, parce que ça rentre dans des mensonges si je dis,
non, c'est pas un mensonge. Si tu dis, Inch'Allah. C'est-à-dire, si Allah il veut que je ne porte pas aide à ma mère, par sa volonté, il se peut que votre mère n'ait plus besoin de vous. Il se peut que vous décédez ou qu'elle décède, c'est la réalité.
Voilà.
D'accord, et vous n'êtes pas en train de mentir.
Non, non, j'ai peur de rentrer dans les mensonges. Par exemple, elle dit, ouais, j'ai su par quelqu'un que tu aides ta mère, et après, je lui dis, non, je ne l'ai pas fait. Après, je passe pour un menteur. Et,
oui, là, et votre femme, elle est pratiquante, musulmane?
Non, non, c'est une Française.
Vous voulez dire qu'elle n'est pas musulmane?
Ouais.
D'accord. À ce moment-là, ça serait bien de faire intervenir une tierce personne pour faire comprendre à votre femme que les parents ont une grande valeur pour nous. Et surtout, ça peut être les parents de votre femme. Je ne sais pas comment elle se comporte, elle, avec ses parents. Mm-hmm. Et donc, lui expliquer, tel qu'elle veut qu'on traite ses parents, qu'elle nous permette aussi de traiter nos parents de la sorte.
Okay.
D'accord.
Merci.
Mais ne pensez pas au divorce.
D'accord.
Pensez à résoudre le problème, et à savoir que vous n'avez de compte à rendre à personne et vous n'êtes pas obligé de tout dire.
Ok.
D'accord.
Alors, dans ce cas-là, je ne rentre pas dans les mensonges. Même si
non.
Je pense.
Non.
Alors, Kadam Rabbi, à la balouche, à la yarf.
Subhanahu wa ta'ala.
Inch'Allah. Yatek Saha ou Yatek Saha.
Donc, on va reprendre encore une dernière question.
On était en train toujours de dire qu'il y a des hadiths qui montrent que le tout péché est pardonné. Oui. Le verset que nous avons cité tout à l'heure, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, concernant ce verset, « Wa la yubali », donc Allah ne donne aucune valeur au péché, parce que ce qui compte pour lui, il y a le repentir. Le repentir sincère de la part du fidèle pour Allah est plus important que le péché. Aussi, le fait que le prophète, quand il a reçu le verset qui se trouve dans Sourate au discernement, ce verset-là dit, il parle de associationnisme, il parle de trois grands péchés. Associationnisme, il parle de meurtre, c'est un grand péché, il parle de fornication. Qu'est-ce qu'il dit au professeur? Qu'est-ce qu'il dit Allah Azza wa Jalla? Il dit, quiconque parmi vous commet ces trois, ou l'un de ces trois grands péchés, encourt l'enfer éternel. Mais Allah ne s'arrête pas là. Il dit l'exception. Excepté, sauf qui? Celui qui se repent, qui reprend sa foi initiale, et qui œuvre dans le bien. Celui-là, Allah va transformer la mauvaise action en bonne action. Allah Azza wa Jalla dit: Illa man taba wa amana wa amila amalan saliha fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Allah est constamment pardonneur. Rappelez-vous-en, Allah est constamment pardonneur. Ne croyez jamais que Allah ne va pas vous accepter. Soyez sincères, Allah va accepter, inshallah ta'ala, le repentir et la demande de pardon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith authentique, il dit, At-ta'ibu min al-dhanbi kama la dhanba lahu. Celui qui se repent d'un péché, c'est comme s'il ne l'a jamais commis. Aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aux gens, aux croyants, demandez pardon à votre Seigneur, et sachez que moi, messager de Dieu, je demande à mon Seigneur pardon plus de 70 fois par jour, et dans une version, plus de 100 fois par jour. Imaginez, lui, il ne commet pas de péché, il fait cela, alayhi salam. Aussi, il nous dit, les portes de l'acceptation, du repentir et du pardon sont largement ouvertes jusqu'au jour du jugement. Aussi, un autre hadith nous dit, les portes du repentir et de l'acceptation du repentir et du pardon sont largement ouvertes jusqu'à l'agonie. C'est-à-dire, on a le temps, tant qu'on est vivant, de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Ah, tant qu'on est vivant. Et donc, cette sœur, vivement, je l'invite à accomplir les trois conditions du repentir. Elle a accompli la première, c'est qu'elle a regretté, et on le voit. La deuxième, elle a arrêté, inshallah ta'ala, qu'elle continue et qu'elle cesse toute relation avec cet homme, si ce n'est dans le halal, comme on l'a vu dans l'histoire de ces trois hommes. Et la troisième condition, c'est de promettre à Allah de ne plus y retourner à ce péché selon ses possibilités. Allah subhanahu wa ta'ala est le grand pardonneur. Ne désespérez jamais de sa miséricorde.
Barakallahu fik, il est 21h24. On va s'opérer une petite pause si Farid nous a calé quelque chose. Je vois qu'il est au téléphone, mais Inch'Allah, on fait la pause. Il y a eu beaucoup de questions en antenne, Inch'Allah, on les posera juste après. Yeah. Et en sachant que vous pouvez intervenir en direct au 03 20 13 59 00. Donc, n'hésitez pas, vous êtes sur l'émission La Prophétie, Pastel FM 99.4.